appels sont l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, notre débat du jour sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. C'était l'une des promesses électorales d'Alassane Ouattara qui veut en finir avec le concept de l'ivoirité, un concept qui a plongé le pays dans la guerre civile. Et pour cela, le projet de constitution propose de supprimer le fameux article 35 sur l'origine des candidats à l'élection présidentielle. Par ailleurs, pour garantir la paix et la stabilité en cas de vacance du pouvoir, le texte propose de créer un poste de vice-président. Autre innovation, la création d'un Sénat. Alors que vous inspirent tous ces changements? Faut-il y voir une dérive monarchique du pouvoir, comme l'affirme l'opposition? En tout cas, il ne fait aucun doute que le projet sera voté aujourd'hui par les députés avant d'être soumis à référendum à la fin de ce mois. Vos réactions évidemment nous intéressent. Vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de l'émission. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réflexions pour alimenter le débat. D'ici là, évidemment, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Mohamed, vous nous appelez de Bamako, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions concernant la future base militaire allemande au Niger?
Oui, bien sûr. Et en fait, après la France et les États-Unis, l'Allemagne a décidé de construire une base militaire au Niger. Alors, j'ai deux questions à ce sujet. Ma première question est de savoir qu'est-ce qui fait du Niger une base stratégique pour combattre le djihadisme. Et ma deuxième question est si cela ne sera pas du Niger une nouvelle cible pour les djihadistes.
Oui, cette nouvelle base militaire qui permettra de soutenir la MINUSMA, la mission de l'ONU, dans sa lutte contre les djihadistes au Mali voisin. On rappelle tout de même que l'Allemagne a déployé 650 hommes au Mali. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes le spécialiste des questions militaires à RFI. Hier, lors de son passage au Niger, Angela Merkel a rappelé, elle a confirmé le soutien militaire de l'Allemagne. Et c'est vrai, Mohamed a raison. Comment explique-t-on que le Niger soit devenu au fil du temps une sorte de base centrale pour les opérations occidentales, pour lutter contre les djihadistes du Sahel?
Déjà, il faut regarder une carte. Quand vous regardez une carte, le Niger est situé au centre de la bande sahélo-sahalienne. Et donc, ça permet d'y baser des forces et d'intervenir aussi bien sur le fuseau ouest que sur le fuseau est, comme disent les militaires, en fait, pour schématiser. Vous prenez le massif de l'Aïr. Vous coupez la carte du Sahara en deux. D'un côté, vous avez le Mali, la zone de la Drar des Ifoas dans le nord jusqu'à la frontière algérienne. Et de l'autre, vous avez le nord du Niger jusqu'au Tibesti, au Tchad et la frontière libyenne. Donc, géographiquement, le Niger est au cœur de la BSS, la bande sahélo-saharienne. Et c'est aussi un carrefour puisque quand vous regardez cette fois-ci la carte des trafics, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Le Niger se trouve sur l'une de ces routes qui remonte vers la Libye et dans l'autre sens, il y a, on le sait, un flux nord-sud qui alimente la région en armes particulièrement.
Et en même temps, Niamey, c'est quand même assez loin de la zone d'action.
Alors, c'est vrai que la base principale des Français et des Américains, aujourd'hui encore, c'est Niamey. Et ça, c'est essentiellement pour des raisons logistiques. Et c'est là qu'on retombe sur notre affaire avec l'Allemagne. Puisque Niamey, c'est la capitale, la ville est assez bien desservie par la route, il y a un aéroport international. Il faut bien voir qu'un gros porteur comme un Boeing 747 ou un Antonov 124 peut se poser à Niamey, mais ne se posera pas, par exemple, à Gao, dans le nord, où sont stationnées notamment les troupes allemandes. Pareil pour les chasseurs dans la région, ils peuvent être basés à N'Djamena, mais selon la zone d'action, en fait, Niamey est beaucoup plus proche, par exemple, s'il fallait intervenir dans le Gourma au Mali. Enfin, il y a la relative stabilité du pays. Quel qu'en soit le prix, la France a besoin du Niger et lui passe pas mal de choses. On soulignera aussi qu'à Niamey, la France n'est pas forcément chez elle. Elle est hébergée au sein de la base aérienne 101, qui reste une base nigérienne. le drapeau français ne flotte pas sur cette base, même si la France a participé à la modernisation des infrastructures.
Ouais. Alors le Niger a été la cible ces dernières semaines de plusieurs attaques d'envergure. La dernière remonte à jeudi, des assaillants qui lancent un raid sur le camp de réfugiés de Tazalit. Est-ce que cette présence militaire occidentale risque d'accroître les attaques ? C'était une des préoccupations soulevées à l'instant par notre auditeur de Bamako.
Alors, que les choses soient claires, le Niger est une cible et c'est une cible depuis longtemps. Et effectivement, les mouvements terroristes ont promis de s'attaquer aux alliés de l'Occident et de la France dans la région. Ils l'ont fait à Bamako, ils l'ont fait à Ouagadougou, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire à Grand Bassam. Et ils ont tenté à plusieurs reprises de mener des attaques terroristes d'envergure à Niamey, dans la capitale. Après, ce n'est pas forcément l'Allemagne qui va attirer les foudres des terroristes. L'Allemagne est dans la région dans le cadre de l'Union européenne pour la formation des soldats maliens et dans le cadre de l'ONU. L'Allemagne ne participe pas directement à la lutte contre le terrorisme, par exemple en menant des raids ciblés comme le font la France ou les États-Unis.
Ah oui, on a répondu à vos questions, Mohamed.
Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous de votre fidélité. Bonne journée à Bamako. Et signalons qu'hier, le président nigérien, Mahamadou Issoufou, a profité de la visite d'Angela Merkel pour saluer justement cette initiative allemande, cette base militaire logistique ainsi que la participation de l'Allemagne à la MINUSMA. On profite, Olivier Four, de votre présence dans le studio pour prendre une autre question sur un tout autre sujet, mais qui concerne là encore le volet militaire, la présence militaire russe en Syrie. Boubacar, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez et les autres auditeurs de la Radio Mondiale.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Ok, bon, on a constaté qu'avec l'escalade de la situation en Syrie, la Russie a commencé à utiliser des systèmes de boucliers antimissiles aériens. Maintenant, je veux juste savoir à quoi servent ces boucliers. Et maintenant, sur tout autre volet, est-ce une manière pour la Russie de montrer sa puissance militaire sur la scène diplomatique mondiale ?
Ouais, la Russie qui montre ses muscles, effectivement, sur le plan militaire en Syrie, la Russie qui continue de renforcer sa présence, son arsenal sur le territoire syrien. Olivier Four, d'abord, il faut préciser, et on est là aussi pour ça, c'est le but de l'émission, il ne s'agit pas de bouclier antimissile, comme le disait à l'instant Boubacar.
Voilà, ce n'est pas un bouclier antimissile, surtout au sens où les Américains l'entendent en Europe, c'est-à-dire un système qui intercepterait des missiles intercontinentaux. C'est effectivement le déploiement de batteries de systèmes anti-aériens, de défense aérienne, donc des missiles solaires, comme on dit régulièrement, DS-300, DS-400, qui ont été installés, nous dit-on, à Latakié, près de la base aérienne russe, et à Tartous, sur le port qui sert de point d'entrée, de base logistique pour la présence russe en Syrie. À deux endroits, donc, les Russes ont déployé ces missiles pour protéger leurs forces, disent-ils, pour protéger les soldats russes. Le problème, c'est que ces missiles ont une portée maximale de l'ordre de 200 km et quasiment le double pour le S-400. Donc en fait, ils ne font pas que protéger leur base, ils sanctuarisent, comme on dit, une bonne partie du territoire syrien. Ça s'appelle, c'est un peu technique, ça s'appelle du déni d'accès aérien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, avec ces batteries antimissiles, la Russie peut priver la coalition arabe et occidentale de sa liberté d'action au-dessus du territoire syrien. Pour schématiser, les Russes peuvent monter une zone d'exclusion aérienne s'ils le souhaitent, pour vider le ciel syrien des avions étrangers. Par exemple, si demain l'Occident décide qu'à Alep, le régime syrien est allé trop loin et qu'il faut aller bombarder les forces de Bachar al-Assad. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est surveiller dans les jours qui viennent pour voir si les Russes livrent davantage de batteries, voir un peu où ils les installent, parce que c'est un signe. Il faut quand même voir aussi que ces missiles S-300, S-400, on en parle beaucoup. C'est une menace sérieuse, mais c'est pas non plus la solution miracle. Par exemple, l'armée israélienne estime qu'elle peut très bien mener des actions, des raids, en prenant en compte cette menace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables de brouiller, d'envoyer des virus dans ces batteries pour les tromper ? Voilà. Mais en tout cas, ça complique la donne, surtout dans le cadre de la doctrine occidentale qu'on appelle la doctrine zéro mort, c'est-à-dire qui consiste, comme on l'a vu au Kosovo, comme on l'a vu en Libye, à mener des raids aériens au-dessus de zones où les Occidentaux ont la la maîtrise totale de l'espace aérien. On imagine que une vidéo d'un pilote étranger qui se serait éjecté au-dessus de la Syrie à quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis ou en France, ça pourrait faire un peu désordre.
En tout cas, incontestablement, la Russie cherche à montrer ses muscles.
Oui, la Russie discute et en même temps, elle avance ses pions sur l'échiquier politico-militaire. Elle déploie des S-300, des navires de guerre. C'est tout de même à même de faire changer la teneur des discussions. C'est-à-dire que vous pouvez entamer une discussion, puis quand vous avez mis une pièce en plus sur l'échiquier, ben effectivement, les discussions peuvent évoluer de manière un peu différente. La Russie n'a pas oublié l'épisode du Kosovo, par exemple, où la diplomatie américaine avait décidé d'aller bombarder Belgrade, allié de la Russie, sans que Moscou ne soit en mesure d'empêcher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, dès l'invasion de la Crimée, ben, la Russie avait fait la même chose. Elle avait verrouillé la même chose qu'en Syrie. Je veux dire, elle avait verrouillé l'espace aérien. Et donc, bien sûr, elle a pu récupérer la Crimée. Et finalement, personne en Occident n'a trouvé quelque chose à redire. Et surtout, personne n'a voulu jouer l'escalade.
La Russie qui continue donc de déployer, vous le disiez à l'instant, des navires. La semaine dernière, elle a annoncé l'envoi de 2 corvettes lance-missiles en Méditerranée. Et on nous annonce dans les prochains jours l'arrivée de l'unique porte-avions au large de la Syrie.
Oui, le porte-avions Kuznetsov qui devrait passer Gibraltar dans quelques jours. Alors les corvettes, elles ont été revues à Malte. Alors, c'est pas exactement le même cap, on ne sait pas trop. En tout cas, elles sont en Méditerranée.
Merci Olivier Four de votre expertise. Bonne journée à vous et on salue évidemment Boubacar qui nous appelait du Mali où il est 8h20, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Christophe Boisbouvier du Service Afrique nous rejoint. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Nous accueillons André qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour André.
Bonjour Gomez, bonjour aux auditeurs.
On vous écoute.
Ah oui, j'ai une question à propos de la France qui a pris une décision sur un ton ferme face au Congo à ce que Kabila ne se présente pas aux élections sous peine de couper d'une sévère sanction. Et je voudrais savoir pourquoi la France n'a-t-elle pas utilisé le même ton ferme face au Gabon par rapport au clan Bongo.
Alors, Christophe Boisbouvier, on a entendu effectivement François Hollande dans un premier temps accuser l'État congolais de s'être rendu coupable d'exactions sur son peuple les 19 et 20 septembre. Ensuite, Jean-Marc Ayrault, chef de la diplomatie française, chez nos confrères de TV5 la semaine dernière, affirmait que la Constitution devait être respectée, qu'il n'excluait pas d'ailleurs de faire comme les Américains, d'adopter des sanctions. Est-ce que la France n'affiche... Pourquoi la France finalement n'affiche pas la même fermeté quand il s'agit du Gabon et de la République démocratique du Congo?
Alors, trois éléments de réponse. D'abord, sur les faits, est-ce qu'on peut comparer les événements du Gabon et ceux du Congo-Kinshasa? D'une certaine manière, oui, car dans les deux cas, il y a eu répression et mort d'homme. Le 31 août, au Gabon, les manifestations et leur répression à Libreville ont fait officiellement 4 morts, dont un policier. Mais selon l'opposition, ces événements ont causé la mort d'au moins 27 personnes et la disparition de 47 autres personnes. On attend d'ailleurs le bilan des organisations de défense des droits de l'homme, qui va être important à suivre. Le 19 septembre, au Congo-Kinshasa, les manifestations et leurs répressions dans la capitale ont fait, selon les Nations Unies, au moins 53 morts, dont 4 policiers. Et on peut ajouter que dans les deux cas, le quartier général de l'opposition a été détruit. À Libreville, c'est le QG du candidat Ping. À Kinshasa, ce sont les sièges des partis d'Étienne Tshisekedi, de Martin Fayoulou et de Joseph Olengakoy. Voilà pour les faits. Hein. Deuxième élément de réponse. Après les événements meurtriers du Gabon, la France a été d'une grande prudence, en effet, dans un communiqué. Le lendemain de ces graves événements du 31 août, François Hollande a renvoyé dos à dos les manifestants et les forces de l'ordre, tandis que son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, vous l'avez rappelé, Juan, a émis des doutes sur les résultats du scrutin qui donnait la victoire d'Ali Bongo. Grande prudence, donc, côté gabonais. En revanche, après les événements du Congo-Kinshasa, François Hollande a pris la parole, en effet, c'était à New York, pour dire que ces violences étaient inadmissibles et insupportables et que ces exactions venaient de l'État congolais lui-même, une position très ferme, donc, qui a provoqué d'ailleurs une vive réaction du gouvernement de Kinshasa. C'est à se demander si la République démocratique du Congo est devenue un nouveau département d'outre-mer, a lancé le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Troisième élément de réponse, ce n'est pas la première fois que François Hollande montre son irritation à l'égard du régime congolais de Joseph Kabila. Souvenez-vous, en octobre 2012, il y a déjà 4 ans, c'était 1 an après la réélection très controversée de Joseph Kabila, l'Union européenne avait parlé d'élections pas crédibles. En octobre 2012, François Hollande avait failli ne pas se rendre au sommet francophone de Kinshasa. Et il y a un mois, lors de sa prise de parole à New York, il l'a rappelé ce fait. C'est la première fois d'ailleurs qu'il reconnaissait qu'il avait failli ne pas aller à Kinshasa 4 ans plus tôt. On se porte en janvier 2015, violente répression meurtrière également d'une première manifestation de l'opposition à Kinshasa et Goma. 42 personnes au moins tuées à Kinshasa et Goma selon la FIDH. La France dénonce déjà cette première répression. Au Congo-Kinshasa, il y a donc un passif qu'il n'y a pas au Gabon. Je pense que c'est une des explications de cette différence de position entre le Congo et le Gabon de la part de la France. Par ailleurs, dans ce même pays, le Congo, il y a une ligne jaune qui est sur le point d'être franchie. Et cette ligne jaune, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la Constitution. Et plus précisément les délais constitutionnels, puisque le 19 décembre prochain à minuit, au terme du second et dernier mandat du président Kabila, tout indique que celui-ci va rester au pouvoir. En effet, chacun sait qu'il n'y aura pas d'élection d'ici là. Au Gabon, en revanche, les formes sont respectées. Certes, la présidentielle du 27 août a présenté, comme dit l'Union européenne, une anomalie évidente, c'est ce fameux taux de participation incroyable dans le fief du président sortant Ali Bongo, un taux auquel personne ne croit. Mais l'élection, aussi suspecte soit-elle, a quand même eu lieu, et en présence d'observateurs de l'Union européenne. D'un côté, donc, au Congo, des délais dépassés. De l'autre, au Gabon, une loi fondamentale respectée dans la forme. C'est, je pense, l'une des différences entre le Congo, Kinshasa et le Gabon qui explique la position différente de la France d'un pays à l'autre.
Merci Christophe Boisbouvier pour cette analyse. André, bonne journée à Ouagadougou. Il nous reste 3 minutes 30, le temps d'accueillir Alpha, qui nous pose des questions concernant le prix Nobel de la paix, attribué, vous le savez, vendredi dernier au président colombien, le président Juan Manuel Santos. Bonjour Alpha.
Bonjour monsieur Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bonjour à toute l'équipe d'appel sur l'actualité. Il n'y a pas si longtemps que ça, le comité Nobel a décerné le prix Nobel de la paix 2016 au président colombien Juan Manuel Santos, suite aux efforts qu'il a consentis pour la signature des accords de paix avec les FARC. À ce sujet, j'ai deux questions. La première est de savoir, qu'est-ce qui justifie l'attribution de ce prix à M. Juan Manuel Santos, surtout quand on sait que le référendum de validation de ces accords soumis aux Colombiens a été rejeté en bloc par les Colombiens.
Alors, on va déjà répondre à cette question, si vous le permettez, avec Jimena Reyes, responsable du Bureau des Amériques de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonjour à vous et merci d'être en direct.
Oui, bonjour.
Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger et se dire pourquoi attribuer ce prestigieux prix Nobel au président Juan Manuel Santos alors que une majorité, petite certes, mais une majorité quand même des électeurs colombiens ont rejeté le plan de paix qu'il a lui-même signé.
Oui, je pense qu'effectivement, moi je me suis posé un peu la même question. Et je crois que le communiqué du prix Nobel y répond, parce que le communiqué est très clair en soulignant que c'est effectivement un prix pour le président Santos, pour tous ses efforts de ces 6 dernières années, notamment en faveur de la paix, mais qu'il faut également voir dans ce prix un tribut pour l'ensemble des Colombiens, et notamment les Colombiens qui ont contribué à la paix, via le travail sur les accords, mais aussi de manière plus globale. Et le communiqué mentionne de manière très explicite les victimes qui, malgré les difficultés, continuent à croire en la paix.
Oui. Et c'est aussi un moyen pour le comité, finalement, de remettre en selle les différents protagonistes pour que les négociations se poursuivent et qu'on parvienne, au final, à un accord qui sera accepté par la majorité des Colombiens.
Oui, parce que ce vote, même s'il a représenté que 40% des possibles votants et que c'est quelques 50 000 voix que le non l'a emporté, a effectivement affaibli Manuel Santos et a bloqué le processus de paix alors qu'on était arrivé enfin à un accord. Mmh. Et via le prix, ça a renforcé la position de Santos face au non, mais je pense que c'est également un message plus large à la population en général, parce que ces élections, ce référendum a eu un effet très polarisant.
Effectivement, et on voit bien d'ailleurs que le président Dos Santos, le président Santos souhaite poursuivre les négociations. On continuera à en parler très prochainement.